Bonsoir à toutes et à tous. Au micro, Mouhamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 14 janvier 2025. Voici le sommaire. En Afrique du Sud, au moins 36 corps extraits d'une mine abandonnée. La police tente depuis 2 mois d'y déloger les occupants. Au Mali, le gouvernement saisit des stocks d'or sur un site exploité par le groupe canadien Barrick Gold.
Ce bras de fer a commencé après les résultats de l'audit minier qui a révélé vraiment des manquements très graves au niveau des paiements de certains taxes et impôts.
L'analyse de l'expert en géologie minière, Djibril Diallo, à suivre dans la partie magazine. Au Mozambique, le principal opposant Venancio Mondlane menace de paralyser le pays pour s'opposer aux résultats des élections d'octobre à la veille de l'investiture du président élu. Ici aux États-Unis, début ce mardi des procédures de confirmation des membres du gouvernement de Donald Trump. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Jean-Roger Billon et les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Mais pour commencer, voici le journal. En Afrique du Sud, 108 mineurs illégaux ont été extraits de la mine de Stilfontein lundi et ce mardi dans le cadre d'une opération de sauvetage. 36 d'entre eux ont été déclarés morts selon un communiqué de la police qui cerne le puits depuis plus de 2 mois pour en déloger les occupants. Alexandrine Polognon.
Le gouvernement a indiqué lundi que plus de 1000 personnes impliquées dans des activités minières illégales dans la zone sont remontées et ont été appréhendées jusque-là. Les autorités ont été accusées d'essayer de forcer les mineurs à remonter à la surface de ce qui ressemblait à une petite ville souterraine en réduisant depuis début novembre les réserves de nourriture et d'eau. Ces dernières semaines, les mineurs qui sont sortis du puits ont fait état de faim et de déshydratation aiguë sous terre. Certains ont été arrêtés faute d'avoir les documents officiels leur permettant d'être dans le pays. Le nombre de personnes se trouvant encore dans ce puits aurifère de près de 2 km de profondeur est inconnu, mais il pourrait être plusieurs centaines, selon la police. À la mi-novembre, certaines sources locales avaient évoqué le chiffre de jusqu'à 4000 personnes.
Au Mozambique, le chef de l'opposition Venancio Mondlane a affirmé ce mardi que ses partisans allaient paralyser le pays pour s'opposer aux résultats des élections d'octobre à la veille de l'investiture du président élu. Depuis octobre, les violences post-électorales ont fait quelque 300 morts selon une ONG mozambicaine. Rentré jeudi d'un exil de 2 mois et demi, Venancio Mondlane a appelé lundi à 3 jours de manifestation jusqu'à mercredi. Le candidat du parti Frelimo au pouvoir, Daniel Chapo, doit prêter serment demain mercredi. Âgé de 48 ans, il succède à Philippe Nyusi. Au Mali, le gouvernement a commencé à saisir les stocks d'or sur le site de Loulo-Gounkoto, exploité par le groupe canadien Barrick Gold dans l'ouest du pays. L'industriel et l'État malien se livrent depuis des mois à un bras de fer autour de ce qui est l'un des plus importants complexes aurifères au monde. Yacouba Ouédraogo.
Les autorités maliennes ont commencé samedi à exécuter une ordonnance de saisie des stocks présents sur le site de Loulo-Gounkoto. C'est ce qu'indique Barrick Gold dans une communication interne destinée aux personnels locaux et consultée par l'AFP. Le gouvernement cherche à obtenir une part plus importante des revenus générés par le complexe souterrain et à ciel ouvert de Loulo-Gounkoto, dont Barrick Gold détient 80% et l'État malien 20%. L'État malien bloque depuis plus de 7 semaines les expéditions d'or de Loulo-Gounkoto. Barrick Gold avait donné au gouvernement jusqu'à la fin de la semaine passée pour débloquer les stocks, faute de quoi elle suspendrait ses opérations. Le groupe disait la semaine passée faire travailler 8000 employés et de nombreux prestataires locaux. Les autorités maliennes ont inculpé et placé en détention 4 employés maliens de Barrick Gold fin novembre. Elles ont émis en décembre des mandats d'arrêt nationaux contre le PDG sud-africain de la compagnie et le directeur général malien du complexe pour blanchiment de capitaux. L'or contribue à 1/4 du budget national du Mali et à 3/4 des recettes d'exportation.
Au Soudan, l'armée a nié ce mardi toute implication dans les attaques contre les civils dans l'État d'Al Jazeera, qu'elle a repris aux paramilitaires des FSR, Force de soutien rapide, après qu'une organisation d'avocats pro-démocratie l'a accusée, ainsi que des milices alliées d'y avoir tué 13 personnes, dont 2 enfants. L'armée a repris samedi la capitale régionale, Wad Madani, expulsant les FSR qui dominaient Al Jazeera depuis décembre 2023. Emergency Lawyers, un groupe d'avocats soudanais qui documente les atrocités commises depuis le début de la guerre, a accusé lundi l'armée et des milices alliées d'avoir arrêté un certain nombre de civils, y compris des femmes, décrivant des campagnes ethniques visant des communautés accusées de collaboration avec les FSR. La Sierra Leone a déclaré lundi l'état l'urgence sanitaire pour faire face au Mpox. Le pays a également renforcé la surveillance à ses frontières après la confirmation de 2 cas. Jean-Roger Bion.
L'urgence de santé publique nous permet de mobiliser les ressources nécessaires pour contenir la maladie, empêcher sa propagation et apporter des soins de qualité aux personnes touchées, a dit le ministre sierra-léonais de la Santé, Austin Dambi. La Sierra Leone a confirmé 2 cas de Mpox, dont le second cas le 6 janvier. En réponse, le gouvernement renforce la surveillance aux frontières, les capacités de test et lance une campagne nationale de sensibilisation. Des épidémies sont en cours dans plus de 70 pays dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré son plus haut niveau d'alerte en 2024. La République démocratique du Congo a été la plus touchée par l'épidémie, avec une majorité des quelque 43 000 cas suspects et 1 000 décès en Afrique. La Sierra Leone, déjà durement touchée par l'épidémie d'Ebola, reste vulnérable face aux crises sanitaires. Ebola y a tué environ 4 000 personnes, dont près de 7% du personnel de santé, entre 2014 et 2016.
En Tunisie, des dizaines de manifestants se sont rassemblés ce mardi dans la capitale Tunis pour réclamer la libération de figures de l'opposition au président Kais Saied au 14e anniversaire de la révolution de 2011 et de la chute du président Ben Ali. À l'appel du FSN, Front de Salut National, principale coalition de l'opposition, les manifestants ont exprimé leur colère face à la répression des opposants, brandissant des portraits d'opposants en détention, comme l'ex-premier ministre Ali Laradei et dirigeant des NADA, ou comme le justicier, le juriste Jawar Ben Barek, cofondateur du FSN, accusé de complot contre la sûreté de l'État. Selon Human Rights Watch, plus de 170 personnes sont en détention pour des motifs politiques ou pour avoir exercé leurs droits fondamentaux, pour certains en attente d'un jugement depuis 2022.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les procédures de confirmation des membres du gouvernement de Donald Trump ont commencé ce mardi au Sénat avec l'audition du potentiel ministre de la Défense, Pete Hegseth, dont le profil controversé crée de forts remous à Washington, Nani Talani.
Pete Hegseth, 44 ans, ancien major et ex-présentateur de Fox News, est auditionné par la Commission des Forces armées du Sénat pour sa nomination en tant que ministre de la Défense. Sa mission principale, a-t-il déclaré aux sénateurs, sera de ramener la culture du guerrier au Pentagone. Donald Trump, comme moi, veut un Pentagone concentré à fond sur le combat, la létalité, la méritocratie, les principes et la préparation. C'est tout, c'est ça mon boulot, a-t-il assuré devant la commission après avoir été interrompu à plusieurs reprises par des personnes dans l'assistance protestant contre la guerre à Gaza. Son manque d'expérience en matière de gestion, des déclarations controversées et une accusation d'agression sexuelle datant de 2017 ont suscité des critiques, notamment de la part de sénateurs démocrates. Hegseth a démenti les accusations et exprimé sa volonté de réformer le Pentagone. Les auditions se poursuivront avec d'autres nominations telles que Christine Noem à la sécurité intérieure, Pam Bondi à la justice et Marco Rubio à la diplomatie. Certaines nominations, comme celle de Robert F. Kennedy Jr. à la santé et de Kash Patel au FBI, sont attendues en février. Le Sénat n'a plus rejeté de nomination gouvernementale depuis 1989.
Le Qatar a affirmé ce mardi qu'un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza pourrait être conclu très bientôt, après 15 mois d'une guerre entre Israël et le Hamas qui a fait des dizaines de milliers de morts. Le Qatar, principal pays médiateur avec les États-Unis et l'Égypte, a déclaré que les négociations en cours à Doha étaient au stade final et que les principaux problèmes bloquant un accord avaient été réglés. Selon 2 sources palestiniennes proches des négociations, 33 otages devraient être libérés durant la première phase du cessez-le-feu, en échange d'un 1 000 000 de Palestiniens détenus par Israël. Israël doit accepter une voie vers la création d'un État palestinien qui soit soumise à un calendrier et à des conditions, a déclaré ce mardi le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Israël devra accepter la réunification de la bande de Gaza et de la Cisjordanie sous la direction d'une autorité palestinienne réformée, a dit le chef de la diplomatie américaine. sortant après 15 mois de guerre entre Israël et le mouvement palestinien Hamas. Tous devront s'engager sur la voie de la formation d'un État palestinien indépendant dans le respect des conditions et des délais impartis. Et puis, le gouvernement américain a annoncé ce mardi l'interdiction de la vente aux États-Unis de véhicules connectés intégrant la technologie chinoise ou russe, tant en termes de composants que de logiciels, estimant qu'ils pouvaient représenter un risque pour la sécurité nationale. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Jean-Roger Bion.
En 2025, le Togo dédie un budget prévisionnel de 32 milliards de francs CFA à la décentralisation et à la déconcentration. Les ressources serviront à accompagner les communes et l'installation des conseils régionaux et des gouverneurs. Cette démarche s'inscrit également dans une dynamique de donner aux collectivités les moyens de répondre de manière autonome aux besoins des populations. Donald Trump participera par visioconférence à la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos la semaine prochaine, quelques jours après son retour à la Maison-Blanche, ont indiqué ce mardi les organisateurs. Le thème du forum sera cette année la collaboration à l'ère intelligente et verra la participation de plus de 60 chefs d'État et de gouvernement, selon les organisateurs. Le gouvernement américain a annoncé ce mardi l'interdiction de la vente aux États-Unis de véhicules connectés intégrant de la technologie chinoise ou russe, tant en termes de composants que de logiciels, estimant qu'ils pouvaient représenter un risque pour la sécurité nationale. Washington vise à sécuriser la chaîne d'approvisionnement des véhicules connectés des menaces extérieures, alors que pour l'heure, aucune voiture connectée chinoise n'est vendue aux États-Unis.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouédraogo. Salut Yacouba.
Bonsoir Mohamedou, bonsoir à tous.
Rigobert Song, nommé sélectionneur de l'équipe de Centrafrique.
Oui, l'ancien sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale centrafricaine par un arrêté du ministre centrafricain des Sports, Rigobert Song. Ancien capitaine emblématique du Cameroun est nommé sélectionneur manager de l'équipe nationale de Centrafrique, rapporte l'arrêté signé par le ministre des Sports, Rodolphe Héritier Bonheur Doneng Wazoumont. Dans un communiqué publié ce mardi, la Fédération centrafricaine de football dit n'avoir pas été consultée ni associée au choix du nouvel entraîneur. Elle dit qu'elle avait décidé de nationaliser le poste de sélectionneur des Fauves. L'intérim était assuré par un staff entièrement centrafricain et dirigé par Eloge Anza Yamissi, ancien capitaine des Fauves. Le contrat de Rigobert Song n'avait pas été renouvelé par la Fédération camerounaise de football après la prestation décevante de la sélection lors de la CAN en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Les Lions Indomptables ont été éliminés dès les huitièmes de finale par le Nigeria. En 23 matchs à la tête des Lions Indomptables, le double champion d'Afrique en tant que joueur 2000 et 2002 n'a remporté que 6 rencontres pour 9 défaites et 8 nuls.
Mikel Arteta pointe les conséquences terribles du harcèlement en ligne.
L'entraîneur d'Arsenal l'a affirmé en réaction aux attaques ayant visé l'attaquant Kai Havertz et sa compagne. L'international allemand a raté plusieurs occasions franches puis manqué son tir au but durant le match perdu contre Manchester United dimanche en Coupe d'Angleterre. Sa femme Sophia Havertz, enceinte, a partagé des captures d'écran sur les réseaux sociaux montrant des messages haineux, notamment l'un lui souhaitant de faire une fausse couche. Le club a signalé les messages à la police et travaille avec une société spécialisée dans le data pour tenter d'identifier les coupables. Nous devons vraiment faire quelque chose à ce sujet parce que le fait d'accepter cela, de le cacher, a des conséquences terribles, a réagi Mikel Arteta. L'entraîneur a pointé du doigt des comportements cyniques en même temps que l'hypocrisie de certains supporters, capables de fêter l'attaquant un jour, puis de l'insulter le lendemain.
Ici en NBA, les Spurs retrouvent le succès à Los Angeles.
Après 3 défaites, les San Antonio Spurs ont retrouvé le sourire en gagnant sur le parquet de Los Angeles Lakers 126-102 pour retrouver un bilan à l'équilibre 19 victoires et 19 défaites. Victor Wembanyama, auteur d'un spectaculaire dunk, a été en vue avec 23 points, 8 rebonds, 5 passes décisives et 2 contres. Les Lakers accueillaient leur premier match depuis le début des incendies à Los Angeles mardi dernier, qui avait entraîné le report de 2 de leurs rencontres. De la même façon, les Clippers ont rejoué à domicile et vaincu le Miami Heat 109-98. La star des Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, a brillé face aux Washington Wizards avec 41 points, 6 rebonds et 7 passes décisives pour un succès 120-106.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Au Mali, le gouvernement a commencé à saisir les stocks d'or sur le site de Loulo-Gounkoto, exploité par le groupe canadien Barrick Gold. L'industriel et l'État malien se livrent depuis des mois un bras de fer autour de ce qui est l'un des plus importants complexes aurifères au monde. Le gouvernement cherche à obtenir une part plus importante des revenus générés par les activités extractives, dont celle du complexe de Loulo-Gounkoto. Pour une analyse, Yacouba Ouédraogo a joint à Bamako l'expert en géologie minière Djibril Diallo.
Ce bras de fer a commencé après les résultats de l'audit minier qui a été effectué par un bureau d'études malien en collaboration avec Mazar. Donc maintenant, qui a révélé vraiment des manquements très graves au niveau des paiements de certains taxes et impôts et dividendes pour l'État. Selon le communiqué de l'État lui-même, dans le rapport de l'audit, l'État reprochera à Barrick un montant qui avoisine les 500 milliards de francs CFA que Barrick doit maintenant à l'État malien. Donc maintenant, sur un premier départ, il y avait eu des négociations. Et l'État et Barrick avaient trouvé un consensus où il y avait même eu un premier versement. Mais après ça, on a vu que la situation a dégénéré. Donc maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un blocage dans les négociations à tel point que Barrick a décidé de saisir le tribunal international pour essayer de régler le litige. Mais ce qui aggrave davantage le problème.
Vous parlez de taxes et impôts que devrait Barrick Gold à l'État malien. C'est ce que vous évaluez autour de 500 milliards?
Oui, c'est ce qu'a dit le gouvernement dans un communiqué.
Alors, d'aucuns aussi dit que l'État malien réclame plus de revenus parce que l'État malien détient 20% et Barrick Gold 80% de tout ce que cette mine d'or de Loulo-Gounkoto dans l'Ouest rapporte comme revenus.
Oui, dans l'ancien code minier, dans toutes les grandes mines, l'État malien a 10% gratuit et 10% que l'État achète en sous forme numéraire. Bon, maintenant, ce qui fait que la part de l'État dans les actions à 20%. En réalité, ce que l'État gagne dans les taxes et impôts est 10 fois plus élevé que les dividendes dont nous réclamons les 10 ou 20%. Mais maintenant, c'est juste que ça donne le poids à l'État dans le conseil d'administration. Bon, maintenant, le nouveau code minier a venu bouleverser tout cela parce que les anciens codes miniers ont été élaborés sous le joug vraiment du dictat de la Banque mondiale. Bon, maintenant, le nouveau code minier a vraiment cassé cette barrière-là. Donc, ce qui fait que dans le nouveau code minier du Mali, l'État malien actionnaire 10% gratuitement et achète 20%, ce qui amène la part de l'État à 30%. Et l'État a prévu 5% pour les nationaux qui souhaiterait être actionnaire dans ces grandes mines. Voilà donc maintenant la différence entre le code minier de 2023 et les anciens codes miniers qui ont été adoptés depuis les années 1970, 91, 99, 2012, 2013 et 2019. C'est la toute première fois que l'État malien lui-même met la main dans la poche pour financer un audit minier. C'est pas seulement que Barrick, il y a d'autres sociétés qui sont incriminées et il y a certaines sociétés qui ont pu régler à l'amiable.
Est-ce qu'il faut espérer une solution peut-être à l'amiable entre l'État malien et Barrick Gold, est-ce possible à l'état actuel?
C'est bel et bien possible quand la volonté y est. Ce n'est de l'intérêt de personne que cette mine soit fermée. C'est la deuxième plus grande mine d'or en Afrique. Vu sa production, sa capacité de production, ça avoisine les 25 tonnes d'or par an. Donc ça pèse lourd dans le portefeuille de Barrick sur le plan international. Donc ce n'est pas dans l'intérêt de Barrick qu'il ne puisse pas avoir un accord, un compromis avec l'État malien. Et un autre côté, c'est que ce n'est pas dans l'intérêt aussi de l'État malien. Pourquoi? Parce que vu le nombre d'employés qui sont là, plus de 8000 Maliens qui travaillent dans ces mines-là, sans compter les sous-traitants maliens qui ont des marchés, des travaux à faire dans ces mines. S'il y a un blocage, s'il n'y a pas un consensus, et je pense que vraiment ça va créer un chômage généralisé pour ces jeunes qui travaillent dans cette mine-là.
C'était Djibril Diallo, expert en géologie minière.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
En RDC, depuis 2017, un groupe de jeunes artistes, danseurs de la ville de Goma, a mis en place une académie qui encadre des enfants, dont des orphelins et d'autres issus de milieux difficiles, qui ont tous en commun leur passion pour l'art. Invisible Kids Academy est un centre artistique situé dans le quartier de Bujovu, où une vingtaine d'enfants apprennent les métiers de l'art. Reportage de notre correspondant à Goma, Zanem Netizaidi.
Dans les rues de Goma, ces enfants sont de plus en plus populaires. Certains d'entre eux ont manifestement été retirés de la rue pour être pris en charge par le centre Invisible Kids Academy, d'autres sont orphelins et certains vivaient des conditions difficiles au sein de leur famille, comme Jasper Imani, 12 ans, qui vient de passer plus de la moitié de sa vie dans ces centres.
Dans notre famille, papa et maman ne s'entendaient pas à cause de l'alcool. Quand maman partait travailler dans des champs et qu'on lui payait un peu d'argent, papa exigeait qu'elle les lui remette et il gaspillait tout dans l'alcool. C'est ainsi qu'ils n'assumaient plus leurs responsabilités, me poussant à abandonner les études. Lorsque j'avais expliqué tout ça aux responsables de ces centres et qu'ils avaient découvert en moi un talent de danseur, ils m'avaient fait inscrire à l'école et je leur en serais reconnaissant toute ma vie.
Plus de 20 enfants sont pris complètement en charge par Invisible Kids Academy, mais en plus de l'art, l'amour, l'entraide mutuelle et la compassion sont les plus grandes valeurs qui leur sont inculquées par les encadreurs. À vous, Esther Mayangue, danseuse du groupe.
C'est un âge comme frère et sœur. Ici, nous vivons comme frères et sœurs, bref, comme une famille. Tout le monde respecte tout le monde. Nous avons des moments de silence, des moments pour faire des blagues, des moments de concentration à répétition. Donc, nous sommes chez nous ici.
Pour Bush Sebar, initiateur de Invisible Kids Academy, l'art est d'abord utilisé ici comme une thérapie familiale avant d'être une profession.
Avec tout ce qui se passe, avec la sécurité et avec la guerre, ceci est vraiment en train de traumatiser beaucoup d'enfants. Et ce que nous aimerions faire, on l'a déjà commencé, et c'est toujours avoir ce temps de ramener ces enfants ensemble qui sont en train de trouver des souffrances à partir de tout ce qui se passe avec la sécurité, le mettre ensemble, les unir ensemble, faire des activités festives et leur montrer qu'il y a encore l'avenir et encore le futur et peut-être qu'ils, demain, peuvent même mettre fin à la guerre et tout ce qui se passe.
Sur leurs différents comptes des réseaux sociaux, les vidéos brutes des danses enregistrées par Invisible Kids Academy accumulent des milliers de vues et des commentaires positifs. Ils sont également parfois invités à ces produits sur différentes scènes de la ville touristique de Goma, où ils ont déjà remporté de nombreux prix lors des concours des chants et des danses. Zanem Neti Zaidi pour VOA Afrique, Goma.
Ici aux États-Unis, une opération de secours d'envergure est en cours à Los Angeles pour aider les dizaines de milliers de personnes qui ont perdu leur maison ou qui ont été évacuées des zones touchées par les incendies qui font rage depuis la semaine dernière. Reportage de Guénie Adulo depuis le Pasadena Convention Center, transformé en centre d'hébergement d'urgence pour les personnes évacuées. Le récit est de Michel Joseph.
Danielle Williams, habitante d'Altadena, dit avoir tout perdu dans l'incendie d'Eaton, à l'exception des vêtements qu'elle portait et de ses chats. L'appartement de sa sœur a disparu. La maison de son père est peut-être encore debout. Ils n'en savent rien.
Toute l'arrière-cour a pris feu. Ils luttent encore contre de nombreux incendies là-haut. Il y a les unités spéciales, il y a les policiers. Malheureusement, son quartier est le théâtre de nombreux pillages, ce qui est un autre sujet de préoccupation.
Tous ceux qui font la queue ont perdu leur maison. Ils attendent une petite aide financière de la California Fire Foundation, une organisation à but non lucratif. Hank Donovan, 19 ans, dit que tout son quartier a brûlé.
J'ai grandi là depuis l'âge de 7 ans avec un groupe de 6 ou 7 garçons. Nous avions tous à peu près le même âge. Nous nous considérons tous comme une famille. Le fait de voir tout le quartier où nous avons grandi, jouer, se retrouver, le lycée ne nous a pas séparés, l'université ne nous a pas séparés. Il semblait que le feu soit la seule chose qui puisse disperser le quartier.
Les pompiers ont aidé Josh Erdman et Armin Sark à récupérer leur alliance après l'incendie de leur maison.
Ils ont démoli le mur, l'ont enlevé et nous ont aidés à ouvrir l'espace pour trouver les alliances. Nous avons cherché dans les cendres et les décombres et en 30 ou 40 minutes, nous avons retrouvé nos deux bagues.
Les agences gouvernementales, les entreprises privées et les organisations à but non lucratif s'efforcent d'aider les sinistrés qui n'ont pas de vêtements, de rechange ou de documents importants. Le refuge pour animaux Pasadena Humane aide plus de 350 animaux abandonnés, explique Kevin McManus, porte-parole de l'association.
Pour que tout le monde soit en sécurité, amenez-nous vos animaux. Nous nous occuperons d'eux comme s'ils étaient les nôtres, comme on voudrait qu'ils le soient, et vous pourrez ainsi prendre soin de vous. Vous n'aurez pas à vous soucier de vos animaux en cette période incroyablement éprouvante.
Richie Ramos, un habitant de Los Feliz, a fait don de fournitures pour animaux de compagnie.
Cela fait du bien d'être ici. Cela fait du bien de voir tout le monde ici être si gentil, de faire des dons et d'être généreux et bien sûr de se soutenir et de s'encourager les uns les autres tant que nous le pouvons.
Les centres d'accueil d'urgence et les casernes de pompiers sont débordés. Les autorités demandent donc aux gens d'arrêter de déposer de la nourriture et des denrées périssables et d'envisager de faire des dons en argent à la place.
Toujours aux États-Unis, le président Joe Biden a exposé sa doctrine en matière de politique étrangère lundi, une semaine avant de quitter ses fonctions. Il a défendu le bilan de son administration à quelques jours du retour du président élu Donald Trump, qui pourrait s'engager dans une nouvelle direction dans bien des domaines. Les détails dans ce reportage de Anita Powell, le récit est de Lionel Gaïma.
C'est en ces termes que le président Joe Biden a résumé sa politique étrangère ces quatre dernières années.
À l'heure actuelle, selon moi, grâce à notre administration, les États-Unis sont en train de remporter la compétition mondiale. Par rapport à il y a quatre ans, l'Amérique est plus forte, nos alliances sont plus fortes, nos adversaires et nos concurrents sont plus faibles. Nous n'avons pas fait la guerre pour obtenir ces résultats.
Monsieur Biden s'est fortement appuyé sur les institutions et les règles multilatérales établies après la Seconde Guerre mondiale. Il a cité l'élargissement de l'OTAN en exemple, affirmant que le bloc de sécurité transatlantique avait contrecarré le projet du président russe Vladimir Poutine d'annexer l'Ukraine voisine.
Lorsque Poutine a envahi l'Ukraine, il pensait conquérir Kiev en quelques jours. La vérité, c'est que depuis le début de cette guerre, je suis le seul à m'être tenu au centre de Kiev, pas lui. Poutine ne l'a jamais fait.
Joe Biden a déclaré que les régimes autoritaires comme l'Iran, la Russie, la Chine et la Corée du Nord s'unissaient plus par faiblesse que par force. En ce qui concerne le conflit qui a débuté en Israël et qui s'est étendu à toute la région, il a déclaré que son administration s'est forcée d'éteindre les feux d'un conflit qui fait rage depuis plus d'un an. Il a vanté son travail sur le plus grand échange de prisonniers de l'histoire moderne l'année dernière. Et à la Maison-Blanche, plus tôt dans la journée, son conseiller à la sécurité nationale a souligné les progrès accomplis dans la libération des otages détenus par le Hamas depuis plus d'un an. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale.
Nous pensons que ces détails sont sur le point d'être réglés et que les parties sont sur le point de conclure cet accord. Les heures et les jours à venir nous diront si nous passons ou non de la situation actuelle à la conclusion de l'accord.
Les analystes s'attendent à ce que le président passe le relais. Jim Kessler, vice-président exécutif de Third Way.
Il est très possible en matière de politique étrangère que Joe Biden soit le dernier président des États-Unis à soutenir l'ordre mondial qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale, parce que Donald Trump veut le refaire d'une manière très radicale et il pourrait finir par le faire.
Andrew Payne est maître de conférences en politique étrangère et sécurité à City St. George's à l'Université de Londres.
C'était la tentative de Biden de dire que la diplomatie était de retour et qu'il laisserait une empreinte durable sur la politique étrangère des États-Unis. Mais lorsque les historiens regarderont en arrière, je pense en fait que la façon dont ils se souviendront de lui sera probablement davantage définie par ce qui viendra ensuite.
Le mandat de Joe Biden s'achève le 20 janvier.
Et c'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mamadou Mfa ainsi va le Monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube et X. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt.